de présenter, mais aussi c'est la candidature d'un certain nombre de forces politiques et de personnalités connues sur la scène qu'on n'a pas aussi besoin de présenter, comme Ahmad Dansoko, comme Abdul Latif Koulibaly, comme Moussa Touré et tant d'autres. C'est une candidature de l'unité et du rassemblement. C'est une candidature qui n'est pas bâtie pour faire la promotion d'un individu. C'est une candidature qui est mise en place pour appliquer les conclusions des assises nationales. C'est la candidature d'un homme qui a fait le serment, contrairement à beaucoup d'autres candidats, de faire un mandat de transition pour permettre au pays de sortir de la grave crise que nous traversons à l'heure actuelle. Et c'est ça la particularité de cette candidature qui aujourd'hui connaît des soutiens à travers le pays, non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ses forces, fortes personnalités, des forces politiques importantes sur la scène politique, mais également dans la diaspora et sur toute l'étendue du territoire. Depuis le 4 janvier dernier, après le congrès d'investiture, évidemment, chaque jour, nous recevons des groupes importants qui viennent avec, qui ont décidé d'aller avec nous. Pas pour soutenir, c'est pas des gens qui viennent soutenir un candidat, mais qui viennent soutenir une équipe dont le capitaine est Moustapha Niass. C'est là toute la différence avec ce qu'on a vu ailleurs et ce qu'on voit ailleurs.
Vous dites candidature de l'unité et du rassemblement, mais peut-être moins le candidat du Parti Socialiste, Ousmane Tanordien. Pourquoi vous ne croyez pas Ousmane Tanordien quand il s'engage à faire un seul mandat, quand il s'engage aussi à dire j'appliquerai, j'instaurerai un régime parlementaire?
Mamadou Ibra, ce qu'il faut éviter dans le débat politique, c'est la personnalisation des problèmes. Je n'engagerai jamais un débat autour de personne. La personne que vous venez de citer, j'ai travaillé avec elle. Il s'agit en l'occurrence d'Ousmane Tanordien au gouvernement pendant 5 ans. Ensuite, on s'est réellement connu dans l'opposition. J'ai eu apprécié ses qualités personnelles et je ne retire rien de cela. Parce qu'il ne faut pas, lorsqu'on est avec quelqu'un, faire ses louanges et quand on n'est plus avec lui, le vouer aux gémonies. Moi, je n'ai pas cette façon de faire. Donc, y a un problème de candidature s'est posé. Deux candidats se sont présentés. Il était du droit de chaque force politique de dire parmi les deux qui sont se sont présentés, voilà celui que je préfère. Un point c'est tout, ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais et qu'il faut le vouer aux gémonies. Voilà, donc nous avons choisi en toute connaissance de cause Moustapha Niass en considérant que dans le temps présent, dans les conditions présentes de Benon, c'est celui qui peut être le candidat de l'unité et du rassemblement, et autour de lui, une majorité s'est exprimée. Moi, je m'en tiens à ça.
Et le Parti Socialiste dit, mais comment vous pouvez-vous mettre de côté le critère de représentativité?
Non, nous n'entrons pas dans ce cadre. Vous savez bien que le critère de représentativité, si on devait s'en tenir, la personne ne ferait une coalition. Eux-mêmes, ils cherchent à faire une coalition aujourd'hui. Ils ont annoncé, je ne sais pas, la candidature avec combien de soutiens. Alors, donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher des soutiens ailleurs. Si on va chercher des soutiens, alors donc le critère de représentation. Vraiment, il faut tourner cette page-là. Franchement, c'est une page douloureuse. C'est une plaie qu'il faut cicatriser. Nous avons tourné cette page-là. Hein. Je tends la main à nos amis, à nos camarades du Parti Socialiste. Pour nous, le Parti Socialiste n'est pas l'adversaire aujourd'hui, encore moins Ousmane Tanordien. Ensemble, essayons, bon, maintenant que chacun d'entre eux est candidat, travaillons pour l'avenir. Il ne faut pas insulter l'avenir.
Vous n'excluez pas de retrouvailles, par exemple, entre un éventuel premier et deuxième tour?
Non, c'est
entre
pourquoi...
les deux tours, non, par
nous,
exemple.
Nous ne voyons pas les problèmes en termes d'animosité, hein, et encore moins de critiques acerbes ou de rejeter quelqu'un définitivement dans la poubelle. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut aller en politique. Mamadou Ibra, Vous savez, moi, je suis un homme politique, j'ai un parcours. Et j'observe les choses à partir de mon expérience, qui est peut-être une petite expérience des 40 dernières années dans la vie politique. Et je m'enorgueillis d'avoir participé à tous les événements majeurs des 40 dernières années en tant qu'acteur. Ces événements qui ont façonné le visage politique du Sénégal. Et ça, pour moi, c'est un trésor immense en tant qu'acteur. Et c'est pourquoi je suis très circonspect dans le jugement sur les hommes et les processus. J'examine aussi ces événements du point de vue de mon siège d'historien. Je suis historien de métier et je regarde l'évolution des sociétés humaines et des processus avec cet œil-là de l'historien, l'esprit de comparaison dans les dynamiques de l'histoire des sociétés humaines. Mamadou Ibra Kane, j'examine aussi ces événements d'aujourd'hui comme ceux d'hier, du point de vue même de ma propre histoire. Ces luttes pour le pouvoir, moi j'en connais quelque chose. J'appartiens à une famille qui a dirigé un royaume pendant 1000 ans et je connais les lueurs et les leurres du pouvoir, les splendeurs et les misères du pouvoir à travers l'histoire de ma propre famille pendant 1000 ans.
Vous êtes donc un prince héritier.
Ça veut dire que c'est des expériences, par exemple, à trois niveaux, à partir desquels moi j'observe aujourd'hui la scène politique sénégalaise. Et donc mon observatoire d'historien, mon observateur d'acteur politique des 40 dernières années et ma propre trajectoire familiale, tout cela. Donc en réalité, en résumé, pour moi, il faut savoir raison garder.
Alors, dernière question de personne, croyez-moi que c'est la toute dernière. Ousmane Tanordien, vous dites qu'il a des qualités. Quelles seraient ces qualités?
Non, vous savez, il n'y a pas d'être humain sans qualité ou sans défaut. En chaque être humain, coexistent l'ange et la bête. Et j'ai eu à le pratiquer. Bon, on a développé des relations humaines, d'affection, pendant ces 3 ou 4 années qu'on a passé ensemble dans l'opposition. J'ai eu à le dire publiquement. Il a eu à dire la même chose sur moi publiquement, sur mon parti. Et moi, c'est pas parce qu'on s'est séparés aujourd'hui que je vais jeter tout ça à la poubelle. Non, je ne ferai jamais ça. Ce n'est pas ma façon de voir la politique.
Une seule qualité de lui?
Je ne sais pas, nous avons bien travaillé ensemble. Chaque fois qu'on a pris des décisions ensemble, il les a appliquées comme d'autres acteurs dans Benno Siguil Sénégal, avant Benno Siguil Sénégal, dans le Front Siguil Sénégal, dans le CPC G10 LD. Donc, il y a des qualités, il n'y a pas d'homme, ça, encore une fois, sans qualité, ça n'existe pas.
Alors, professeur Blaye Batilé, pour en revenir à votre candidat Moussa Fagnas, est-ce qu'on peut le présenter comme le candidat de la rectification de l'alternance? Parce que lui-même, ayant fait partie de ceux qui ont fait pour que le président Blaye Ward soit élu en 2000, vous-même, avec la fameuse CA 2000, est-ce que c'est le candidat de la rectification de l'alternance qui s'oppose face à un éventuel candidat d'un retour à l'ancien système ou d'un maintien de l'actuel système?
Non, il ne s'agit pas pour nous, à travers cette candidature de Moustapha Niass, de rectifier l'alternance. Ce n'est pas là la question qui est posée à nous. Ce qui est en train d'être fait par nous, c'est de nous engager dans un processus au terme duquel, avec la victoire, nous allons appliquer les conclusions des assises nationales. Et l'application des conclusions des assises nationales dépasse la dimension alternance. Les assises nationales ont fait non seulement la critique de l'alternance, mais au-delà, les assises nationales ont fait l'évaluation critique du Sénégal depuis l'indépendance. Donc, ce qui s'est passé avant l'alternance. Donc, les assises nationales appellent à un remodelage de notre schéma institutionnel, à une autre façon de gouverner le Sénégal qui n'est pas celui d'avant l'alternance, qui n'est pas celui de l'alternance, qui se projette sur un autre, sur un futur. Et cela est beaucoup plus important pour nous.
Le problème pour vous, peut-être, c'est qu'il y a une foule de candidats qui se réclament des assises nationales. Le président Amadou Mokhtar Mbow, président de ces assises, a eu à dire « Personne ne peut dire qu'il est le candidat des assises nationales ». Ça vous gêne ?
Non, pas du tout, pas du tout. Personne ne peut, simplement parce que les assises n'ont pas vocation de choisir un candidat. Évidemment. Beaucoup de candidats peuvent se réclamer des assises nationales, mais dans la réalité, on peut voir ceux qui sont aujourd'hui dans la dynamique d'application des conclusions des assises nationales. J'ai dit tout à l'heure que nous, notre candidat, et nous l'avons dit du haut de la tribune du Congrès des investitures du 4 janvier, a fait le serment public d'appliquer les conclusions des assises nationales et mieux que cela, de s'engager pour la transition de 5 ans, de ne plus être candidat. Mais dans notre programme qui est décliné très clairement, aussi bien l'architecture institutionnelle, la constitution, les éléments programmatiques, tout cela vient directement des assises nationales.
Une fois, on note quand même à sa place, Robert Sagnan s'est mis à prêter serment.
Non, il a lu le document sur lequel on s'est tous accordés. Et Moussa Fagnas, en prenant la parole, évidemment, hein, pour des raisons de temps, n'a pas repris. Mais c'est très clair, c'est son document qui est signé, qui est acté.
Oui. Mais et aurait fallu candidat, que ce soit lui qui lève la main, qui
oui, prête oui, pour la forme, peut-être, oui, sans doute. Hein, mais dans le fond, tout le monde reconnaîtra que ça a été fait. Aucun d'autre candidat ne l'a fait. D'autres candidats se présentent comme des hommes providentiels qui demandent des souteneurs pour appliquer leur manière de voir les conclusions des assises nationales, ce qui est tout à fait différent, mon Libra.
Justement, que dites-vous de tous ces autres signataires de la charte de gouvernance démocratique des assises nationales ?
Non, il y en a qui ont signé
Macky Sall, Youssou Ndour, Ibrahima Fall, cher Tidiane Gadio, si je ne me trompe, cher Bamba Dieye, qu'en dites-vous ?
Je n'ai rien à dire. L'opinion est là pour juger. Je n'ai rien d'autre à dire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que nous faisons. Nous avons été dans le processus. Nous avons participé à l'élaboration. Nous, à la LD, au niveau de l'AFP, les gens ont participé, et du Parti de l'Indépendance et du Travail, Moussa Touré, hein, Abdou Latif Koulibaly, il a été président des Assises nationales à Sokone. Ce sont des gens, des personnes qui ont participé à l'élaboration des documents. C'est autre chose que après venir signer un document, quelquefois même en disant avec des réserves, on ne sait pas d'ailleurs sur quoi on fait
attitude
des réserves.
Attitude d'hypocrisie ?
Je ne sais pas, l'opinion jugera, mais moi je n'ai pas à qualifier.
Quand Macky Sall dit qu'il ne croit pas au régime parlementaire, par exemple, tout en étant signataire de la charte de gouvernance. Qu'est-ce que vous en dites ?
Je dis encore une fois, d'abord, les assises n'ont pas parlé de régime parlementaire. Les assises, dans leur conclusion, ont défini le type de régime politique. Ouais. En disant que jusqu'ici, le Sénégal a été gouverné par un système présidentiel. Sous Senghor, sous Diouf, avec une caricature avec Ablaye Wade. Ça a été dit très clairement. Nous disons au niveau des assises nationales qu'il faut revenir à un rééquilibrage des pouvoirs qui fait de l'Assemblée nationale le centre d'impulsion de la vie politique. Restaurer la dignité de député du peuple, représentant du peuple, qui n'est pas là, comme ils le disent aujourd'hui, député de Abdoulaye Wade. Oui, au lieu d'être député du peuple sénégalais à travers une circonscription déterminée. Alors, c'est ça qui est fondamental. Et le projet de constitution qui est élaboré, sur lequel Benno Sigel Sénégal a travaillé, va dans ce sens-là. On n'a pas déterminé, les assises n'ont pas dit que c'est au régime parlementaire. Okay. Peut-être que, bon, dans le système de classification des juristes constitutionnalistes, ils vous diront que ça se rapproche des régimes parlementaires. Et vous savez, même les régimes parlementaires connaissent une diversité de formes dans l'histoire, dans les pays. Que ce soit en France, que ce soit en Grande-Bretagne, qui est le type classique du régime parlementaire.
Peu importe pour vous quand Macky Sall dise que lui, il ne croit pas au régime parlementaire, ça ne vous dérange pas du tout.
Ce n'est pas une question de déranger. Je dis simplement, si ça veut dire que ce qui est retenu par les assises nationales en faisant du Parlement, de l'Assemblée nationale, le centre d'impulsion de la vie politique, eh bien, là, ça pose problème. Maintenant, si également on dit qu'on rejette le régime parlementaire pour créer un système qui permet à un président de la République de faire ce qu'il veut, comme on le voit aujourd'hui, de nommer des députés, de fait, de renvoyer des députés, de fait, de renvoyer un président de l'Assemblée nationale, de le contraindre à la démission, de faire du Sénat une chambre d'enregistrement. J'ai dit ça, un tel pays est à la dérive, et le Sénégal est aujourd'hui est à la dérive, et ce système là est exécrable. Un régime de pouvoir personnel est très dangereux pour notre pays, et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et les peuples sénégalais doivent être très circonspects sur tous ceux qui se présentent comme des messies pour régler à eux tout seuls les problèmes du Sénégal. C'est pourquoi nous, encore une fois, à Benno Siguil Sénégal, nous disons que Moustapha Niass est le capitaine d'équipe, mais non seulement pour gagner, mais pour bâtir le Sénégal, donc pour gagner, cette équipe-là doit mettre sur le terrain tous ses joueurs, le capitaine comme l'arrière, comme le gardien de but, hein, les 11 joueurs, sa réserve, pour qu'ensemble nous construisions le Sénégal.
Faisons et attention c'est ce que nous... à cette métaphore footballistique qui a donné les résultats peut-être qu'on sait, quand on se met à la place de l'opposition, bien sûr, qui n'arrête pas de critiquer le président Ablaye Wade, qui fait souvent référence à une équipe de football.
Mais non, lui n'a pas d'équipe. Lui n'a pas d'équipe, il a des servants qui sont là à son service. Il n'a pas d'équipe.
Il soutient bien le contraire. Professeur Blaise Batili, vous êtes l'invité du grand jury de la RFM. À côté des signataires de la charte de gouvernance des assises, il y a les non-signataires. J'en citerai un, Idrissa Seck, qui n'a pas signé. Qu'est-ce que vous en dites?
Mais Je n'en dis rien. Chacun sur cette scène politique peut et doit faire son choix. Le peuple sénégalais juge. Nous avons, pendant 3 ans, société civile, parti politique, fait un diagnostic de la situation de notre pays. Nous sommes arrivés à des conclusions. C'est une première dans l'histoire politique du Sénégal. C'est une première, je peux même dire, dans l'histoire de l'Afrique, ce qui s'est passé aux assises nationales. C'est sans exemple. D'ailleurs, c'est maintenant que les gens commencent à aller vers ce type de solution comme sortie de crise. Alors, tout le monde a reconnu que c'est dans cette voie aujourd'hui que l'Afrique doit s'engager si elle veut sortir de l'ornière. L'ère des présidents tout-puissants qui décident comme des rois dans leur pays, cette ère doit être close, donnée la faveur à une autre gouvernance qui est une gouvernance démocratique qui écoute toutes les composantes des citoyens. On ne peut pas définir l'économie d'un pays sans discuter, sans prendre les mesures avec les acteurs de l'économie. On ne peut pas régler les problèmes de l'éducation, les problèmes de la santé sans faire le diagnostic et trouver les solutions et les appliquer avec ceux qui sont dans ces secteurs-là. C'est ce nouveau modèle de gouvernance dans lequel nous sommes engagés au niveau de Benno Siguil Sénégal avec Moustapha Niass. Maintenant, si d'autres prennent d'autres voies, les Sénégalais sont là
Alors,
pour juger.
Que feriez-vous si votre candidat N'était pas vainqueur dès le premier
non,
tour
je
ou, qualifié,
même pas,
ou
je,
qualifié au second
je
tour. Que feriez-vous
même pas ça. Nous allons au deuxième tour. Nous allons au deuxième tour pour gagner. C'est ça la,
parce
la
que
réalité.
Vous excluez une victoire dès le premier tour de l'un quelconque
non,
des candidats.
Non, tel que je vois, non, il faut être honnête. Tel qu'on voit les choses, les réalités politiques sur le terrain au Sénégal, et ça c'est une très bonne chose, parce qu'au Sénégal, il y a une montée. Non seulement de la conscience politique, des partis, des forces politiques existent sur le terrain depuis des années, hein, depuis des décennies maintenant, depuis le parti unique qui a été combattu, qui a été obligé de lâcher du lest pour venir au multipartisme limité, ensuite au multipartisme intégral. Des forces politiques, depuis la clandestinité, se sont incrustées sur le terrain politique. Et depuis lors, depuis le multipartisme intégral, il y a eu un dispositif géographique des partis et les forces sont sur le terrain. On ne peut pas envisager un seul instant qu'un seul candidat, un candidat quel qu'il soit, puisse l'emporter dès le premier tour. Surtout dans une, dans un moment où on constate par ailleurs que la société civile aussi a fait émergence et compte aussi dans le dispositif électoral est fondamental. D'ailleurs, aucun parti tout seul, on le sait, ne peut avoir la majorité de l'électorat. Même les partis, les militants des partis pris ensemble ne font même pas, d'après en fait, les évaluations qui sont faites, 20% de l'électorat. Donc, tout le monde va vers un électorat qui n'appartient à aucun parti dans son écrasante majorité.
J'insiste
donc
sur
ça veut dire donc
oui, oui.
Il ne peut pas y avoir. Maintenant, Abdoulaye Wade est décidé à monter la fraude électorale, une machine de fraude électorale qui va mettre le pays en péril.
On en parla tout à l'heure. J'insiste sur ma question. Dans le scénario d'un second tour opposant deux candidats issus de la famille libérale.
Non, ça ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je ne l'envisage pas. Je ne l'envisage pas. Mamadou Ibra, ce n'est pas envisageable.
Alors,
Moustapha Niass sera au deuxième tour.
Alors, vous parliez de la société civile, je ne sais pas.
Dispose aujourd'hui, oui. Quand je vois la réalité des forces sur le terrain et du mouvement vers cette candidature de Moustapha Niass, aujourd'hui, incontestablement, il sera au deuxième tour.
Vous parliez de la société civile, je ne sais pas s'il en est issu, en tout cas jusqu'ici il n'était pas connu au bataillon des politiques. Youssou Ndour, candidat à l'élection présidentielle de 2012, votre commentaire, on ne vous a jamais entendu sur cette question.
Je lui dis bienvenue sur l'arène. Je connais bien Youssou Ndour, je l'ai suivi dans sa tendre jeunesse et pour la petite histoire, Youssou Ndour, son premier poste, disons, j'allais dire international, il n'était pas à l'époque connu, au début des années 80, fut mon épouse Anna Sarr, qui travaillait à l'UNICEF, a proposé à l'UNICEF de faire de ce jeune musicien talentueux, à l'époque, pas connu internationalement, un ambassadeur de l'UNICEF. Et dans ce cadre-là, il venait souvent à la maison. Mes enfants l'ont connu comme cela. Et d'ailleurs, dans mon bureau, j'ai une photo de Youssou avec mon fils Samba.
Ouais.
Et Youssou était à l'époque très jeune, donc je l'ai connu, je l'ai vu évoluer sur la scène nationale, puis internationale. Incontestablement, il a beaucoup de talent en tant que musicien. Et puis, par la suite aussi, ces dernières années, nous nous sommes rencontrés sur la scène internationale. C'est lui qui anime l'événement de la fondation Mo Ibrahim chaque année au mois de novembre dernier, on était ensemble à Tunis comme on a été ensemble à Dar es Salaam et ainsi de suite. Donc je l'ai vu évoluer, il a certainement beaucoup de talent, mais je lui dis bienvenue sur l'arène politique.
La politique, vous émettez des réserves?
Mais vous savez, la politique, il faut la voir sous sa dimension large. Il n'y a pas que la politique partisane. La politique, c'est le gouvernement de la cité. Chacun a son mot à dire. Et en tant que citoyen, sans doute, il a décidé de dire son mot pendant cette campagne. Eh bien,
et quand il dit
c'est aux Sénégalais de le juger.
Quand il dit qu'il gagne dès le premier tour...
Oui, moi j'ai dit tout à l'heure qu'aucun candidat ne peut gagner dès le premier tour.
Y compris
voyons.
Lui.
Non, c'est... bien sûr, il peut le dire, mais vous savez bien que quand on voit le dispositif des forces à la fois politiques mais électorales et le mouvement que je vois aujourd'hui, il est impossible que ce soit Youssou N'Dour ou tout autre candidat de gagner dès le premier tour.
Alors, Abdoulaye Wade, candidat déclaré à sa succession, tient le même discours autour de la fin du mois de janvier. Ça devrait être entre peut-être le 27 et le 28. Il y a cette décision tant attendue du Conseil constitutionnel qui va dire si la candidature du président Wade est valide ou pas, comme d'autres candidatures. Comment vous attendez ce débat?
À ma connaissance, jusqu'à présent, il n'a pas déposé cette candidature et je lui recommande formellement de ne pas le faire. Il n'en a pas le droit. Sur le plan constitutionnel.
Votre candidat, lui, a déposé, hein, Moussa Fagnas.
Oui, nous avons déjà déposé la candidature avec tous les éléments requis par les procédures en la matière. Nous n'avons pas de problème sur ce plan-là.
Votre candidat, quand même 72 ans, un peu âgé, non, Moussa Fagnas?
Non, mais Ablaye Wade est venu au pouvoir à 74 ans. Et nous, notre
vous
candidat...
Vous lui reprochez justement aujourd'hui son âge.
Non, là, en 2000, je me rappelle encore quand nous sommes allés rencontrer Ahmad Dansoko, Landing Savané et moi à l'hôtel California Saint-Germain où je logeais dans le 5e arrondissement, dans le salon où il est venu nous voir. Quand on lui a dit de se presser, de rentrer pour faire cet acte de candidature, puisque nous étions déjà sur le terrain, pour faire sa campagne, sa pré-campagne. Ce qu'il nous a dit, c'est très clair. Vous savez, moi, je suis trop âgé maintenant, j'ai 74 ans. Quand je gagnerai, je ne ferai qu'un seul mandat. Et je m'en vais et je laisserai la jeune génération continuer. Et c'était tout à fait normal. Bon, nous n'avons pas répondu. Aucun d'entre nous n'a réagi par rapport à ça. Et à l'époque, nos accords n'étaient pas dans le sens de limiter les mandats. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer les ravages de ce qu'il allait faire par la suite. S'il avait accepté normalement d'être candidat, même à 74 ans, de gagner, bon, et de partir, ou même un deuxième mandat normal, nous n'aurions pas trouvé à redire dans les conditions de l'époque. Mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est très grave.
Vous relevez qu'il
et c'est en tenant compte de tout cela, des leçons du passé, que nous avons considéré qu'il n'est plus possible d'aller au-delà de deux mandats. Ablaye Wade ne peut pas aller au-delà de deux mandats. Il a fait deux mandats, il doit aller prendre sa retraite.
Vous relevez
Il doit éviter à notre pays des convulsions. Vous savez, le Sénégal ne peut pas supporter une crise du genre de ce que la Côte d'Ivoire, de celle que la Côte d'Ivoire a connue. Pourquoi? Parce que le Sénégal est un pays totalement dépendant sur le plan économique. Nous avons encore notre budget dépend pour son bouclage de l'aide internationale. Nous ne sommes pas favorisés par la nature.
On a enregistré cette année un déficit budgétaire de 6 à 7%.
Bien sûr. Nous avons aujourd'hui non seulement nous ne sommes pas dotés par la nature, mais il y a une crise agricole aujourd'hui très grave, il y a un déficit alimentaire dans le pays, dans beaucoup de régions aujourd'hui la famine est déjà installée. Alors la Côte d'Ivoire a des ressources naturelles, les Ivoiriens ils mangent le aloko, l'igname, etc., la tchéké, ils ont des ressources naturelles agricoles, sans compter les autres ressources que nous n'avons pas. Ce que nous mangeons, le Sénégal, pratiquement à 65% importe de l'extérieur ce qu'il mange. Un tel pays est tellement fragile. Si vous le soumettez à une crise, vous créez les conditions de sa dislocation. Ouais. Imaginez, la Côte d'Ivoire, le port a été bloqué pendant presque 3 mois. Ça n'a pas fonctionné. Imaginez que le port de Dakar puisse être bloqué pendant 1 mois, qu'il n'y ait pas d'importation de riz, que les Sénégalais ne puissent pas avoir de riz. De quoi? Qu'est-ce qu'on va manger? Le sable du Kadior? Non. Et c'est pourquoi Ablaye Wade doit faire très attention. Ce pays-là lui a donné tout. Il a tout pris à ce pays au moment où on s'y attendait le moins. Cette grâce dont il a bénéficié, il doit faire en sorte que le Sénégal il le quitte dans la, il le laisse dans la stabilité. Que ce Sénégal, s'il l'aime, qu'il fasse en sorte qu'il ne participe pas à ces élections.
Vous relevez justement, professeur, qu'il n'a pas encore déposé sa candidature. Que voulez-vous dire par là ? Croyez-vous à un plan B ? On en parle en disant peut-être que le pouvoir présenterait un autre candidat, même si le président Ouad dit seul Dieu l'empêcherait de se présenter.
Je ne suis pas dans ses secrets, mais dans tous les cas, il sait lui-même qu'il ne peut pas être candidat, il ne doit pas être candidat, et non seulement les Sénégalais n'en veulent pas, mais tous les amis du Sénégal à l'extérieur n'en veulent pas parce que c'est une source d'instabilité, une source de chaos pour notre pays, et c'est moralement inacceptable parce que, à son âge, après deux mandats, il ne doit pas prétendre à la majorité, à la magistrature suprême.
Et s'il déposait cette candidature tout de même et que le Conseil constitutionnel valide cette candidature ?
Mais j'espère que le Conseil constitutionnel ne le fera pas. Je sais qu'ils sont sous la terreur parce que Abdoulaye Wade, en 93, dans sa recherche du pouvoir coûte que coûte, on le sait maintenant, a commandité l'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel. Ça, on le sait maintenant. L'affaire Maître Sey,
c'est lui.
Je suis formel, c'est lui qui en est le commanditaire. Tous les actes qu'il a posés montrent que c'est lui qui a commandité l'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel en 93. Et aujourd'hui, ayant tout le pouvoir...
La justice ne l'a pas dit.
La justice ne l'a pas dit, lui-même il l'a dit. Il l'a dit comment ? Par les actes qu'il a posés. Il a libéré les assassins en les dédommageant, en leur donnant les moyens pour se reconstruire, pour faire des affaires. On connaît ces assassins-là, c'est lui qui les a fait gracier, amnistier. Il a essayé de corrompre la famille en leur donnant 600 millions, la famille du défunt, Maître Sey. Ça aussi, c'est connu. Abdoulatif Koulibaly l'a bien démontré dans son document.
Et quelle et importance ensuite, se rappelle et ensuite, historique dans le contexte
ont,
actuel
et en, tous ceux qui peu ou prou ont participé à cet assassinat, Abdoulaye Wade les a favorisés. Je dis pourquoi ? Quelqu'un qui a pu faire ça, demain, les éléments du Conseil constitutionnel qui sont, ils savent bien que si quelqu'un a pu commanditer l'assassinat d'un juge du Conseil constitutionnel avant d'arriver au pouvoir, aujourd'hui qu'il a les pouvoirs, il est capable de faire pire.
Vous êtes en train de dire que le danger pour les membres du Conseil constitutionnel aujourd'hui vient du pouvoir.
Ah oui, ils sont sous la trouille. D'ailleurs, ils sont barricadés là-bas maintenant. Ils ont déménagé. Ils sont aux Almadies.
Sous protection de l'État.
Oui, sous protection de l'État, bien sûr. Ils sont barricadés aujourd'hui. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire dans ce pays. Alors, sous Abdoulaye Wade. Et je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, je le supplie de ne pas être candidat. Je le supplie de faire en sorte que notre pays ne sombre pas dans
qu'est-ce
le chaos.
Qu'est-ce que vous dites ou faites même pour que ce que vous souhaitez là n'arrive pas en termes peut-être de gages ? Vous refusez de lui parler, sinon par les zones d'RFM interposées.
Oui, mais parce que moi, depuis plus de 10 ans maintenant, je n'ai pas accès à lui.
Il appelle
pour dialoguer sur cette question. Aujourd'hui même, je vous dis, si Abdoulaye Wade lance un appel à l'opposition pour dire qu'il est prêt à dialoguer, discuter les conditions de son départ, je ne pense pas qu'un seul instant un leader quelconque de l'opposition se refuserait à cela.
Vous répondriez oui.
Oui. Les conditions de son départ,
on discute devant les Sénégalais qui vous écoutent.
Absolument, absolument. Parce que nous voulons que ce pays-là poursuive sa route, sa marche dans l'histoire, dans la paix, dans la stabilité, parce que c'est ça qui fait notre force, notre spécialité, notre exception. S'il est d'accord sur ça, il n'y a pas de problème. On va discuter. Dans quelles conditions les élections vont être des élections apaisées ?
Et peut-être que la présidentielle soit un peu décalée ?
Non, j'ai dit qu'on va discuter. Je ne dis pas décalée ou quoi que ce soit. Et qu'il l'annonce.
C'est discutable.
Qu'il l'annonce. Oui. Et on verra qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'il l'annonce.
Il a quand même eu à dire.
Et d'ici, à partir de votre micro, je lui lance l'appel. Nous sommes prêts, ici et maintenant, à discuter des modalités de son retrait immédiat de la course aux élections de février 2012.
Et pour le pays, le RFM prend l'engagement de prendre la tâche du président de la République ou de ses services pour voir ce qu'ils vont dire.
Je vous en prie, c'est un devoir patriotique. Oui. Et votre radio, votre média a beaucoup joué dans le sens de l'avancement de la démocratie, de la paix civile dans ce pays. Et je vous en prie, faites-le.
Et que
le
répondez-vous
pays
quand...
vous en sera gré.
On tentera en tout cas. Que répondez-vous quand lui-même dit, mais je formerai un gouvernement d'union nationale et je ferai en sorte que je sorte en beauté de la scène et que l'alternance générationnelle soit réussie.
Ce n'est pas à lui. Il ne peut pas former un gouvernement d'union nationale dès l'instant qu'il est disqualifié pour être candidat. C'est ça le problème. Il a eu 11 ans au pouvoir. Il n'a pas formé un gouvernement d'union nationale.
Et pourtant, à la Corité ou à la Tabaski, il a eu à nommer Moussa Fania, c'est Tanor, en disant « Venez pour un gouvernement. »
Tout le monde a ri de cette proposition. Non, c'est pas sérieux tout ça, franchement.
Mais pourquoi on devrait vous croire, vous, quand aujourd'hui vous prenez l'engagement sur nos ondes, que s'il fait cet appel, cette fois-ci, vous en discuterez?
Moi, je peux dire, en tant que président du directoire de campagne de Moustapha Niass et au nom de l'ensemble des leaders de Benno Siguil Sénégal qui soutiennent la candidature de Moustapha Niass, si Ablaye Wade solennellement dit qu'il est d'accord pour discuter des conditions du retrait de sa candidature pour les élections de février 2012, nous serons prêts à examiner ces conditions-là pour lui permettre de partir en paix, en beauté, parce que ça va rehausser l'image de notre pays.
Peut-être que votre déclaration sauvera le Sénégal, entre guillemets, on verra. Mais disons, cette candidature du président Wade, sa contestation a amené un jeune opposant, socialiste Malick Noël Seck, en prison avec une lettre adressée au sage du Conseil constitutionnel. Il avait été condamné à 2 ans de prison ferme, réduction de la peine, il devait être libéré vers le 12 février. Et puis, grâce du président de la République, qu'est-ce que vous en dites?
D'abord, Malick Noël Seck ne devait pas être en prison. Et c'est parce que les conditions de son incarcération et de sa condamnation sont sujettes à caution qu'aujourd'hui, Ablaye Wade a dû encore une fois tordre le bras aux procédures juridiques en la matière pour le faire libérer. Voilà. Il foule au pied.
Discrétionnaire.
Non, mais il foule au pied. Oui, mais les juristes disent qu'il y a quand même des procédures, une procédure avant la grâce. Il y a des procédures à suivre. Mais aujourd'hui, le système judiciaire est foulé au pied. Il piétine les magistrats. Il piétine toutes les procédures judiciaires.
Une médiation du journaliste Madiamba Diagne.
Médiation ou pas. Quand on incarcère les gens n'importe comment, pour n'importe quoi, on fait incarcérer n'importe quoi, n'importe comment, eh bien, on en arrive aussi, sous la pression, à fouler au pied les procédures judiciaires. Et c'est ça. Aujourd'hui, notre système judiciaire ne sort pas grandi de toute cette épreuve. Aussi bien les conditions du jugement que les conditions de sortie de Malick Noël Seck. Le pays, l'image de notre justice est aujourd'hui ternie par toutes ces procédures-là. C'est ça le grand problème qu'on a aujourd'hui. C'est pourquoi il est temps qu'on en finisse avec le système Wade, qu'on tourne cette page et que le pays prenne un autre élan et s'engage dans une autre perspective. Et c'est ça que la candidature de Moustapha Niass veut installer dans ce pays.
À côté de Malick Noël Seck, Barthélémy Diaz, également en prison à la suite des événements du 22 décembre, un mort, le Nervi Ndiaga Diouf, un groupe de Nervi qui s'est rendu d'ailleurs à votre domicile, vous, le professeur Ablaye Batili. Que pensez-vous de l'évolution de cette affaire depuis?
Vous savez, quand ils ont quitté chez moi, ils sont allés à la mairie de Sacré-Cœur, Mermoz, et la suite des événements, D'abord, il y a un événement malheureux, parce que dès l'instant qu'il y a mort d'homme ou il y a blessure, le sang d'une personne coule, c'est une chose quand même que nous ne pouvons pas accepter. Mais là encore, il faut prendre la chose à la racine. Qu'est-ce que ces nervis avaient à faire chez moi à 11h du matin pour me menacer? Peut-être que s'il m'avait trouvé là-bas, je n'étais pas à la maison à ce moment-là, c'était 11h du matin, j'étais parti en réunion. Peut-être que s'il m'avait trouvé là-bas, je ne sais pas ce qui se serait passé. Ils m'auraient peut-être agressé, parce qu'ils étaient quand même nombreux, 50 personnes, dans deux voitures, dont l'une n'est pas immatriculée, l'autre est immatriculée, on a pris le numéro est connu. C'est une voiture du Parti démocratique sénégalais. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire chez moi? En tant que citoyen, qu'est-ce que j'ai fait pour que des nervis viennent chez moi, commandités par le PDS? Et ensuite, ils sont allés provoquer. Pourquoi aller dans une mairie qui est un lieu public ou dans un autre domicile? Donc c'est ça la question fondamentale qu'il faut se poser. C'est encore une fois Ablaye Wade porte en lui la violence comme la nuée porte l'orage. C'est un système qu'il a mis en place.
Par la suite,
qui est un système dangereux, un système crapuleux.
Alors, par la suite, Barthélémy Diaz en prison, il y a eu quelques auditions, le célèbre garde du corps du président Baye Moussa Ba Dibro, qui a été relâché par la suite, et puis il y a aussi l'audition d'Abdoulaye Faye, l'administrateur général du PDS. C'est des actes importants, à vos yeux?
Non, pour le moment, il y a eu tellement de cas comme ça, ils font semblant d'aller, de faire la justice, en fait, du moins d'actionner la justice, mais après, ça s'arrête en chemin. Il y a tellement de cas, que ce soit le cas de Madiam Baldiagne, de votre journaliste
Boubacar
Kambeldjian, le cas de... Enfin, il y a toute une... C'est un système qui est là, pas pour faire la justice, mais c'est un système, encore une fois, crapuleux. Ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas. Tous ces gens-là qui sont, on les connaît, moi je les connais puisque on a cheminé ensemble, ceux-là que vous venez de citer. Jusqu'en 2000, ils étaient, c'était des calots bleus, ils étaient dans l'entourage de Ablaye Wade. Je les connais très bien.
En même
je
temps,
sais ce dont ils sont capables. C'est le genre d'individus qui font ce type de besogne. On les a cités dans l'affaire Maître Sey. Il ne faut pas oublier ça. Les deux que vous venez de citer là, ils ont été inquiétés dans l'affaire Maître Sey. C'est pas un hasard qu'ils continuent à faire du service.
En même temps, la porte-parole du Parti Socialiste qui était là la semaine dernière à votre place, Aïssat Talsal, disait que le PS ne sentait pas trop l'implication de ses alliés de Benon, comme si vous reprochiez péripétie. La candidature de l'unité.
Non, absolument pas. Nous ne sommes pas là pour régler des comptes. Encore une fois, je l'ai dit, moi je n'ai absolument rien contre, nous n'avons absolument rien contre le Parti Socialiste, encore contre un militant ou un de ses responsables. Quand l'affaire a eu lieu chez moi, je suis arrivé à la maison pour constater ce qui s'est passé et immédiatement, avec Moustapha Niass, Ahmad Dansoko et d'autres leaders de Benno, nous sommes allés directement à Mermoz Sacré-Cœur pour constater la situation. Et de là-bas, Barthélémy avait déjà quitté les lieux. Je l'ai appelé au téléphone pour lui parler. Et pour la petite histoire encore, Mamadou Ibra, ce jeune Barthélémy, ce n'est pas seulement un soutien politique en ce qui me concerne que je dois lui prodiguer. Mais c'est un soutien filial. La grande sœur de Barthélémy est l'amie intime à ma fille, Naye Bachili. Elles ont grandi ensemble. Elles étaient tout le temps ensemble chez moi. Le petit Barthélémy, depuis sa tendre enfance, venait chez moi. C'est comme ça que je l'ai connu. Je le considère comme mon fils. Ne serait-ce que de ce point de vue-là. Je suis affecté par ce qui lui arrive, du point de vue filial. Et ma fille était là ces derniers jours, elle était à la prison, elle est à la police et, tout, et à la maison. Donc, pour moi, véritablement, il faut dépasser. Il ne faut pas faire de ces choses-là des arguments politiciens.
Les cinq dernières minutes du grand jury, pour paraphraser le titre d'un film il y a quelques années, et c'est pour terminer sur ce thème, le rapport entre le pouvoir religieux et le pouvoir temporel. Il n'y a pas de Ndigal de Touba cette année, le ralif général des Mouris de la Karté. Auparavant, le président Awad disait, il y a quelques jours, qu'il ne pouvait pas mettre Touba sur le même pied que les autres cités religieuses. Si on combine ces deux déclarations, qu'est-ce que le professeur Blaise Batili pense de cela?
Je crois que toute l'opinion sénégalaise a pu mesurer le niveau de responsabilité morale de ces deux hommes. Le khalif général des Mourides, qui assumant sa responsabilité morale dans ce pays de guide spirituel, analysant bien la situation de notre pays, a dit très clairement qu'il n'y a pas de Ndigal. Et je salue cette attitude qui participe de la paix civile, qui participe de la concorde nationale. Encore une fois, c'est un geste remarquable. En revanche, quelqu'un que les Sénégalais ont élu en 2000, Abdoulaye Wade, n'était pas le bienvenu à Touba. Dans beaucoup de circonstances, j'ai eu à le dire.
Pourtant, il a dit que grâce à la communauté mourine.
Non, il le sait très bien que ce n'est pas le cas. C'est l'ensemble des citoyens sénégalais, de toute confession, qui ont participé à son élection au premier et au deuxième tour. Et d'ailleurs, au deuxième tour, quand nous étions à Touba, il a fallu l'intervention de Moustapha Saliou pour que des gens qui organisaient une cérémonie là-bas à Touba acceptent de recevoir Ablaye Wade.
Moustapha j'étais Saliou, témoin de ça, j'étais avec calife Serigne
absolument.
Saliou Mbaké.
J'étais là avec Ahmad Dansoko, on a passé la journée chez Serigne Saliou. Au moment de partir, il y avait un grand rassemblement au centre de santé. C'était d'ailleurs l'inauguration de l'université, je crois. Oui. Et les gens qui étaient là-bas, de hauts dignitaires, ont refusé de le recevoir. Il a fallu que Moustapha Saliou intervienne pour dire « Mais Touba appartient à tout le monde. D'autres candidats sont venus. Laissez Ablaye Wade aussi parler, dire ce qu'il a à dire. Que vous soyez ou non avec lui. » J'ai été témoin de cette scène-là. Et quand Ablaye Wade a pris la parole en disant « Je construirai Touba », ceux qui étaient là-bas, qui organisaient la réunion, ont dit « Touba est déjà construite. » Alors, c'est une attitude irresponsable de sa part qui crée la zizanie. Touba n'a pas besoin de ça. Et l'attitude du khalif magnifie ce que doit être le rôle d'un guide spirituel.
Il n'a pas donné de Ndigal au sens consigne de vote, mais il donne Ndigal, si vous voulez, pour des élections apaisées.
Oui, ça, c'est ça son rôle, justement.
Vous en prenez l'engagement,
c'est ça,
il y aura des élections calmes.
C'est ça son rôle, lui, en tant que guide spirituel, et je salue qu'il ait lancé cet appel-là. Nous, nous sommes pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes. Nous ne pouvons pas accepter la fraude. Je voudrais en profiter pour dire à tous les citoyens d'aller retirer leurs cartes, surtout dans les zones où il y a eu redécoupage, parce qu'il faut prendre les nouvelles cartes. Il y a beaucoup de cartes en souffrance parce que les gens ne sont même pas au courant. Il n'y a pas de publicité autour de la nécessité d'aller retirer ces cartes-là. Vous voyez ? Et je pense que Ablaye Wade serait bien avisé, non seulement en retirant sa candidature, mais aussi à ne pas tenter d'influencer ces élections dans le sens de la fraude. Nous ne l'accepterons pas. Et ils veulent commencer d'ailleurs avec le vote des militaires. Le vote des militaires, les conditions doivent être transparentes. Mais ensuite, les conditions de garde des urnes, après le vote, tout le monde doit y veiller.
Vous avez lancé un appel solennel dans cette émission, professeur Blaise Batili. Y aurait-il des contacts entre vous et le pouvoir sous l'égide, par exemple, de la communauté internationale?
Non, moi, je n'ai aucun contact avec la communauté internationale. Je pense que nous sommes des Sénégalais, nous sommes suffisamment majeurs. Aujourd'hui, nous devons pouvoir régler ces questions-là. Ablaye Wade est venu au pouvoir dans des conditions de paix civile. Il doit, et non seulement je lance un appel à lui-même, mais aussi à son entourage.
Très bien. Ablaye Batili, je vous remercie.
C'est moi
qui vous
remercie.
Vous êtes le secrétaire général de la Ligue démocratique, président du directoire de campagne du candidat Moustapha Niass de la coalition Benno Siguil Sénégal. Merci d'être venu à l'émission Le Grand Jury, présenté avec plaisir par Mamoudi Brakane et Abdoulaye Diop à la technique. Dans un instant, le journal de 12h avec Ismaïla Camara. Bon